que les apparitions d'OVNI dans le ciel du Nevada, à l'origine de la mythologie qui entoure la mystérieuse zone 51.
Nous sommes devant la zone 51. Mais vous imaginez ce qui doit se passer derrière?
En 1947, une soucoupe volante serait tombée dans le désert du Nouveau-Mexique, non loin de la ville de Roswell.
Plus de 2 millions de personnes se sont inscrites sur un événement Facebook Storm Area 51 They Can't Stop All of Us Raid sur la zone 51. Ils ne pourront pas nous arrêter tous. Cette zone 51 est une zone militaire secrète dans le désert du Nevada aux États-Unis, lieu de toutes les théories et de tous les complots extraterrestres, d'autant plus que le gouvernement américain s'est toujours refusé à préciser les activités militaires qui avaient lieu sur cette base appelée Groom Lake. Tout s'y mélange, accident de Roswell, essais de technologie alien, voire portail spatial de contact avec d'autres civilisations. Bonjour Pierre Lagrange.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des sciences, chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités à l'EHESS. Alors est-ce que la zone 51 cache des activités extraterrestres?
Elle cache certainement des essais de technologie aéronautique tout à fait aérienne, puisque les avions furtifs, des choses comme ça, décollaient. Donc ça, c'est très clair, c'est une des bases clés apparemment de ce qu'on appelle les Black Programs, c'est les Deep Black Programs, qui mobilisent des centaines de milliards chaque année. Après, il y a toute une mythologie, un folklore qui s'est développé autour de ces histoires à partir de la fin des années 80. Alors localement, apparemment, il y avait un folklore plus tôt, c'est normal. La zone 51 devient un phénomène public à partir de 88 notamment. Alors elle est mentionnée dans quelques documents qui avaient été déclassifiés, qui sont plus ou moins authentiques dans les années 80.
C'est-à-dire plus ou moins authentiques?
À partir des années 70, quand le Freedom of Information Act est renforcé à la suite du Watergate notamment, les ufologues américains, donc les spécialistes des ovnis, vont s'en servir pour obtenir la déclassification des documents de l'US Air Force, du FBI, de la CIA et de la NSA. Et alors par la suite, il va y avoir énormément de débats autour de ces documents, de ce qu'ils sont censés décrire, ça. Et d'autres documents vont sortir, notamment en 1987, toute une série de documents sortent à propos d'une cellule ultra secrète qui s'appelle le Majestic 12, qui aurait géré l'affaire de Roswell et toutes ces histoires de secrets. Les événements qui sont censés s'être déroulés à Roswell, c'est 1947, début juillet. Mais l'affaire de Roswell, c'est 1980, le premier livre en fait qui réunit l'un des événements de 47 et puis d'autres événements qui ont été enquêtés entre-temps, entre 78 et 80 par plusieurs ufologues. Donc c'est 1980. Et c'est de là vraiment que démarre l'histoire et la polémique. Et les ufologues vont ensuite enquêter, d'autres groupes d'ufologues vont se greffer dessus. Entre 1980 et 1987, c'est une période noire pour les ovnis, ils font plus recette dans les médias. Et donc c'est en 1987 que ça sort vraiment aux États-Unis, parce que l'affaire de Roswell va justement être associée à la révélation de documents, donc des fameux documents du MJ-12 qui sont censés être des documents d'un briefing pour Eisenhower, le président Eisenhower, quand il a été élu, qui l'informait de ce qui s'était passé en 47.
Ce mythe du Majestic 12 qu'on va retrouver, c'est-à-dire d'un groupe secret.
X-Files.
Voilà. C'était quoi Majestic 12? C'était un groupe d'obscur qui... Alors,
c'était un groupe de généraux très haut placés, de scientifiques de très haut niveau, qui étaient censés être ceux qui avaient l'autorisation de connaître le secret des secrets, on va dire. C'est le Watergate cosmique, cette histoire. Et donc, c'est censé être une cellule qui est au-dessus de la Maison Blanche. Donc on est vraiment dans ce mythe d'un gouvernement secret.
Tout ça, en tout cas, aujourd'hui, il est prouvé, attesté scientifiquement que ce sont des faux, archifaux, que ce groupe n'a jamais existé.
Voilà, il y a toujours des personnes qui défendent son authenticité, mais on va dire que les ufologues mainstream ont disqualifié les documents, ils ont démontré de façon très claire que ce sont des faux.
Ce qui est intéressant sur le moment de la création de cette mythologie autour de la zone 51 des années 80, quelque chose que peut-être on a moins perçu en France, c'est que ça vient aussi à une période où sont lancées les premières grandes class actions, c'est-à-dire les grandes actions en justice contre les grands groupes où on pense qu'effectivement il y a du complot partout, et en parallèle avec aussi beaucoup d'affaires d'enlèvement d'extraterrestres.
Alors oui, c'est-à-dire que quand l'histoire du MJ-12 et dont Roswell rebondit en 87, il y a un autre événement qui va vraiment faire la une des médias aux États-Unis, c'est la publication d'un livre de Whitley Strieber, qui est un auteur de romans fantastiques, mais qui a écrit un livre dans lequel il prétend avoir été lui-même enlevé, victime d'enlèvement. L'année suivante, il publie une suite, donc ça va être devenir un phénomène, et les gens vont se mettre à parler énormément de ces histoires d'enlèvement. Deux aspects, enlèvement et les secrets sur Roswell, MJ-12 et autres. Et en fait, ces histoires vont se rejoindre parce qu'après les ufologues, divers groupes autour, alors évidemment les journalistes vont s'intéresser à ces histoires, jusqu'au New York Times qui va entretenir la polémique et la documenter, mais également dans les groupes plus traditionnellement liés aux théories du complot aux États-Unis, notamment certains groupes d'extrême droite et tout, vont récupérer également ces histoires et vont rajouter alors tout ce que un délire, d'ailleurs les ufologues l'appellent comme ça, hein, sur le fait que le gouvernement aurait passé en fait un pacte avec les extraterrestres qui se seraient installés dans différentes zones, notamment à Dulce dans le Nouveau-Mexique et à la zone 51 dans le Nevada, et aurait obtenu en échange de technologies extraterrestres l'autorisation d'enlever des humains. Et évidemment, ils n'auraient pas respecté les quotas et ces révélations donc expliquent que le gouvernement est aux mains des extraterrestres et qu'on n'est plus chez soi.
Il y a aussi à ce moment-là une sorte, vous l'avez évoqué à demi-mot, Pierre Lagrange, une sorte de bascule politique, c'est-à-dire que le milieu des ufologues est plutôt un milieu de gauche, héritière d'une certaine pensée un peu babacool, alors que là, dans les années 80, le complotisme bascule clairement à l'extrême droite.
Alors, au moins dans ces milieux-là, oui, il y a d'autres ufologues qui restent sur leurs idées, mais c'est vrai que quand ça sort de l'ufologie, que ça rentre dans les milieux proches des milices, on est dans un autre univers, celui des survivalistes et de ces gens-là. Mais les ufologues vont continuer à cette histoire. Et c'est vrai que ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est le fait... Alors maintenant, ça devient plus clair parce que la crise écologique a montré l'ampleur des problèmes que rencontre notre société. Mais à cette époque, ce qui est intéressant, c'est de voir que le moment où ces polémiques vont enfler aux États-Unis et le moment où ils vont passer en 95 dans le reste du monde, ça correspond aussi à ces moments où il y a une défiance accrue de l'ensemble de la population, alors, pour tout un tas d'élites industrielles ou autres qui se retrouvent devant les tribunaux. Et notre réalité commune commence à basculer. Ce qui fait qu'avant, dans les années 70-80, on avait une réalité relativement stable qu'on pouvait opposer aux ufologues en disant « vous racontez n'importe quoi ». À partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile. Et Internet émerge aussi à ce moment-là, qui va permettre une généralisation des débats et la diffusion de ces informations. Ce qui fait que je pense qu'on est dans une phase où on est encore en train de faire le tri dans tout ça.
Et puis il y a un autre élément qui va venir finir d'enfoncer cette mythologie dans la psyché populaire, c'est évidemment la vidéo, la fausse dissection d'extraterrestres, qui d'ailleurs, a priori, n'a rien à voir avec ces milieux américains qui viennent d'un tout autre milieu.
Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui vient d'Angleterre, mais c'est l'histoire qui va permettre au grand public de se connecter sur cette affaire. C'est-à-dire que jusque-là, par exemple en France, en 94, si on avait parlé de Roswell, la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était. Et la polémique autour de cette vidéo, donc qui est censée révéler l'autopsie d'un des extraterrestres découverts à Roswell,
diffusée en France sur TF1,
par VSD, l'hebdomadaire VSD, diffusée dans tout un tas de télé, c'est vraiment un phénomène mondial. Et à la fois, ça va permettre en France, par exemple, de lancer la série X-Files. La première saison avait eu un succès assez limité et donc cette histoire va être ce qui est considéré comme un canular par l'ensemble des ufologues, mais qui va permettre justement à toute la culture populaire de se greffer et de comprendre les ressorts principaux de cette histoire, on va dire.
Dernière question, Pierre Lagrange. Pourquoi le gouvernement américain n'a-t-il jamais voulu déclassifier les opérations qui se déroulent sur la base de Groom Lake pour justement dégonfler le ballon de baudruche?
Pour tout ce qui est OVNI, une grande partie des documents ont été déclassifiés. Pour ce qui
on connaît les modèles d'avions qui ont été expérimentés, enfin une partie d'entre eux.
Ces choses-là, on sait, mais par exemple le F-117, quand on a appris son existence en 89-90, il est quasiment en fin de service. Évidemment, ça entretient cette paranoïa générale. Et surtout à une époque, justement à la fin des années 90, où tout commence à être remis en question, on va dire, ça contribue encore plus. Voilà, l'appareil d'État militaire américain est très cachotier, il a constamment maintenu le secret, et je ne sais pas ce qui pourrait le faire changer.
Merci beaucoup Pierre Lagrange, je rappelle que vous êtes sociologue des sciences, chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités à l'EHESS. Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo, sur franceculture.fr.